Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ensemble et nous poursuivons notre parcours avec Abraham, entamé depuis bien longtemps maintenant, et nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 21, nous lisons les 13 premiers versets. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Et Sarah devint enceinte. Elle donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, ce qui veut dire « il rit », Isaac, le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait donné. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. C'est alors que Sarah dit « Dieu a fait de moi la risée des gens, quiconque l'apprendra rira à mon sujet ». Elle ajouta « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants ?» Et cependant, « je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit, il fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Mais Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. » Cette parole déplut fort à Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « N'aie pas de déplaisir à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande, car c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta descendance. » Jusqu'ici, notre lecture. Il y a un temps pour tout, nous dit l'Ecclésiaste, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour lamenter et un temps pour danser, un temps pour étreindre et s'éloigner de l'étreindre. Je ne cite que quelques-unes des 14 paires par lesquelles le sage nous dit tout à la fois la richesse et la complexité de ce que nous vivons. Rien n'est tout d'un côté, rien n'est tout de l'autre. Nous vivons des temps alternés, des réalités mêlées. Mais Dieu, poursuit l'Ecclésiaste, fait toutes choses belles en son temps. Il a ses ressources pour chaque situation. Il intègre nos temps, parfois heurtés et mêlés, dans l'œuvre qui est sienne et dont lui seul possède la clé. C'est ce que nous découvrons ici encore avec le récit de la naissance d'Isaac. L'événement tant attendu intervient, c'est magnifique. Et pourtant, cet événement magnifique engendre une rupture entre deux postérités d'Abraham, entre Isaac, le fils de la promesse, et Ismaël, le fruit des décisions et des tentatives humaines. Rires et déchirements, nous entendons ces deux échos dans un récit que l'on voudrait tout à la joie. Il nous faudra déchiffrer ce que cela peut nous apprendre. Voilà des mois que nous accompagnons Abraham et Sarah dans leur cheminement tout au long du texte biblique de la Genèse. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Car je pense que nous avons pu sentir au fil des messages le poids, la densité, la longueur de l'attente de la promesse pour Abraham, pour Sarah. 25 ans se sont écoulés entre l'appel d'Abraham et ce moment désiré par eux, promis par le Seigneur, de la naissance d'un fils, gage de la postérité que Dieu avait annoncée. 25 ans où ils ont oscillé entre le bonheur de la perspective que Dieu leur ouvrait et la longueur du temps, entre la difficulté à comprendre les voies de Dieu et la foi envers et contre tout. 25 ans où quelques paroles claires du Seigneur ont balisé le chemin et ont balisé aussi des temps de silence où il fallait s'accrocher simplement à ce que Dieu avait déjà dit. 25 ans où peu à peu ont été franchies une à une les limites de ce qui était humainement possible pour les amener à se trouver finalement dans le rouge, en situation où il n'y a plus rien à espérer de soi, où il faut tout attendre de Dieu. Dieu travaille avec le temps. Nous le savons en théorie. C'est beaucoup plus difficile à vivre concrètement. Mais il faut bien nous rendre compte que la plupart des apprentissages ne se font que de cette façon, avec le temps. Tant que durent nos jours, nous sommes comme une étoffe sur un métier à tisser. Brin après brin, le Seigneur tisse et travaille notre vie. Parfois c'est long, parfois on ne voit pas à quoi ça mène. Mais ça vaut la peine, c'est sûr, parce que Dieu travaille, il fait son ouvrage. Et nous pouvons lui demander, n'abandonne pas l'ouvrage de tes mains, comme nous l'avons lu dans le psaume 138. Dieu travaille avec le temps, mais Dieu agit aussi en son temps. Et c'est ce que nous rappelle ce récit qui commence par ces mots pleins d'encouragement. L'Éternel intervient en faveur de Sarah, selon sa parole. L'Éternel intervient. Voilà enfin le temps de la réponse de Dieu. Et ça nous rappelle que la foi ne nous condamne pas à attendre indéfiniment. Au temps voulu, le Seigneur prend ses responsabilités. Au temps voulu, le Seigneur sait agir conformément à ce qu'il avait dit. Il fait aboutir ce qu'il a commencé. Et comme le printemps après l'hiver, c'est alors l'éclosion de ce que Dieu désire pour nous. L'éclosion de l'œuvre de Dieu. L'Éternel intervient. Le verbe qui est employé est très beau. C'est littéralement « l'Éternel visita Sarah ». On dira pareillement, lorsque Dieu envoie Moïse auprès d'Israël, esclave en Égypte, le Seigneur a visité les enfants d'Israël, il a vu leur souffrance. Ou encore, le Seigneur a visité son peuple et lui a donné du pain, peu après une famine à Bethléem. À la naissance de Jean-Baptiste, précurseur de Jésus, c'est la même joie. Béni soit le Seigneur de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et face aux merveilles de l'action de Jésus, c'est encore ce mot qui revient. Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Il y a toute une ligne qui parcourt la Bible pour dire l'intervention de Dieu dans les situations humaines et dans l'histoire. On dit que Dieu visite son peuple. Alors bien sûr, les linguistes nous rappellent très utilement que ce qui est décrit sous ce mot, c'est une intervention de Dieu et non pas une visite dans le genre moment confortablement installé sur son fauteuil. C'est clair qu'il s'agit d'une intervention de Dieu dont il est question. Mais si l'on parle de visiter plutôt que de dire que Dieu agit simplement, c'est qu'on veut dire qu'en plus de l'action de Dieu, il y a une attention particulière du Seigneur. C'est pas juste, si vous voulez, une intervention technique programmée qui se réalise automatiquement. Mais il y a une attention particulière du Seigneur, comme quand on va visiter quelqu'un, quand on va vers lui. Il y a une attention à la personne, une attention à la situation de cette personne. Il y a une volonté de se faire proche. Dieu réalise son dessein, oui, mais il ne fait pas à la manière d'un programme impersonnel. Il réalise son dessein en s'impliquant lui-même. Et cela la grâce d'une présence, la marque d'un amour. Alors parfois, Dieu visite aussi pour juger, pour examiner. Mais le plus souvent, la visite du Seigneur est un moment où Dieu intervient pour faire du bien, pour soulager, pour délivrer. Et c'est pourquoi nous pouvons prier légitimement et avec confiance, si nous sentons vraiment notre besoin de Dieu, « Seigneur, visite-moi, visite-moi d'en haut, marque ton intérêt pour ma vie, réalise en moi toi-même tes desseins, toi-même tes projets. » Ici, l'intérêt est porté tout spécialement sur Sarah. Elle est mentionnée trois fois avant qu'on ne parle d'Abraham. Alors bien sûr, c'est elle qui est enceinte, mais la répétition montre un intérêt spécial de Dieu pour elle. L'épreuve avait été particulièrement exigeante pour Sarah. Pendant toutes ces années, elle s'était vue vieillir sans enfant. Curieusement, il y avait eu une parole du Seigneur pour Abraham, pour Agar, mais jamais pour elle, jamais directement adressée à elle. Une vraie épreuve. Mais au temps choisi, le Seigneur visite Sarah. Il intervient dans son corps, mais il soigne aussi sa douleur. Il met un baume à son cœur. Il répare ses bleus à l'âme. Il la restaure, elle, tout en accomplissant ses plans à lui. Êtes-vous dans une situation où vous avez besoin, comme Sarah, d'un réconfort ? Sachez que, comme elle, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous n'êtes jamais oublié. Voilà donc Sarah enceinte contre toute attente. Elle a dépassé, en termes de longueur, les deux tiers de ce que sera sa vie. Et ce don lui est fait par une intervention du Dieu de la vie qui lui permet d'être enceinte. Deux tiers de sa vie sans voir la réalisation de la promesse, un tiers où elle peut en bénéficier. Que faut-il valoriser ? Faut-il valoriser le miracle ? Formidable, elle est enceinte. Ou la longueur de l'attente ? Faut-il valoriser la fin heureuse ou les années d'angoisse et de frustration ? C'est pas facile à dire. Les réponses de Dieu, parfois, effacent presque d'un coup tout ce qui a été difficile pendant le temps de l'attente. Mais parfois, les réponses de Dieu viennent plutôt comme un cadeau qui comble, qui fait du bien, mais sans forcément faire oublier tout ce qui a précédé. Par contre, ce qui nous est promis, c'est que lorsque Dieu nous accorde sa bénédiction, cette bénédiction, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et c'est certainement ce que Sarah peut vivre. C'est le Proverbe 10, verset 22 qui dit cela. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Sarah, quant à elle, est intégrée aussi dans une signification qui la dépasse. Dieu, en fait, tient à montrer que la vraie postérité d'Abraham, celle dont il fera son peuple, est toujours et sera toujours une postérité improbable, une descendance qui n'est pas du ressort des possibilités humaines, mais qui dépend de son intervention à lui, de son amour à lui. Comment devient-on enfant de Dieu et fils d'Abraham ? Par le miracle d'une intervention de Dieu en nous, pour nous ouvrir à lui, pour nous détourner de notre tendance à vouloir être nous-mêmes la norme, la mesure et le centre de tout. Et dans ce sens-là, d'une certaine façon, nous sommes tous des Isaacs, si nous appartenons à Dieu, tous des Isaacs, des enfants complètement improbables. S'il n'y avait pas eu l'action de Dieu, jamais nous ne serions là, comme sans l'action de Dieu, jamais Isaac n'aurait été là. Sarah a dû vivre une épreuve particulière dans sa vie de femme, parce qu'elle était aussi au service de ce message, bien au-delà d'elle-même, bien au-delà de sa propre expérience. Elle dit aussi que rien n'est impossible à Dieu, mais pour cela, il faut d'abord être arrivé au bout de ses propres limites, là où on peut placer son recours en Dieu et en Dieu seul. Ce qui étonne dans le récit de la naissance d'Isaac, c'est la sobriété et la brièveté du récit. En quelques lignes, tout est dit. Il y a eu de longs récits pour dire l'attente, la préparation a pris du temps, Mais l'accomplissement que l'on attendait si fort est dit en quelques phrases, simples, sans développement. Et c'est raconté presque comme s'il s'agissait de la chose la plus simple du monde. Il y a là, me semble-t-il, une leçon de sobriété face à ceux qui pensent qu'il faut toujours en rajouter pour mieux glorifier Dieu. Ce n'est pas ce que fait le texte ici. Certains faits parlent d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de surenchère. C'est aussi, me semble-t-il, une leçon de réalité. Parfois, les grandes réponses que Dieu nous donne face à nos attentes nous sont données dans des moments très simples, dans des circonstances très simples. Pas de tambour, pas de trompette, mais c'est dans le cours normal de la vie que cela est donné. Même les grandes choses arrivent souvent dans des écrins très modestes. C'est une rencontre qui déclenche tout, une parole, un début de changement, une brise nouvelle qui souffle en notre cœur. Et c'est ce levain tout petit qui devient ensuite plein de sens et qui développe toute sa saveur et sa richesse. Et c'est pourquoi le récit nous est donné comme cela, simplement. Aussi pour nous avertir d'une certaine façon, oui, lorsque Dieu agit, il fait des grandes choses dans l'écrin tout normal et dans le cours tout normal de notre vie. Alors bien sûr, notre récit nous parle de la naissance d'Isaac. Moi j'aime quand même, avant cela, imaginer pendant un temps le bonheur de Sarah portant cet enfant de la promesse, dans le secret d'abord, puis aux yeux de tous. J'aime imaginer sa respiration profonde, ses moments de plénitude silencieuse, son regard croisant celui d'Abraham. J'aime imaginer son visage de jour en jour s'irradier de bonheur. J'aime l'imaginer ainsi pour me rappeler ce que veut dire la bénédiction de Dieu. Quand Dieu bénit, c'est vraiment quelque chose de beau, quelque chose qui saisit. Béni soit Dieu qui vous a béni de toutes sortes de bénédictions, nous rappelle pour nous aussi l'apôtre Paul. Et il est bon pour nous de prendre le temps de mesurer ces choses, ces bienfaits, ces bénédictions que Dieu nous donne. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, dit le proverbe, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. On a tant vu Sarah dans la douleur qu'il faut prendre le temps de se la représenter dans le bonheur, car elle est aussi une figure d'espérance, une belle figure d'espérance pour tous ceux qui prient, pour tous ceux qui attendent, qui parfois n'osent plus le faire, qui attendent que Dieu les visite, les réconforte, leur ouvre de nouvelles perspectives, leur donne une sérénité toute neuve. Voilà donc maintenant l'enfant qui est là, sain et sauf, et le moment de lui donner un nom. Ce nom sera de consonance joyeuse, car Isaac veut dire « il rit », cela parle de rire. Isaac, le fils de la promesse, est et sera toujours l'enfant du rire. Et de quel rire s'agit-il? Si nous rappelons l'histoire, il y a eu d'abord les rires d'Abraham et de Sarah, bien avant la naissance d'Isaac, lorsque Dieu leur promettait cette postérité qui devenait de plus en plus improbable, et confrontés à cette promesse trop extraordinaire avant qu'elle ne se réalise vraiment. Ils avaient ri l'un et l'autre, tant la distance semblait grande entre la promesse et leur réalité. Ce n'était pas forcément de l'incrédulité, mais c'était la distance qui s'exprimait là. Et maintenant, il y a le rire qui jaillit, qui fuse chez ces deux vieillards qui se découvrent baignés de bonheur. Il y a aussi les rires de joie, de sympathie tout autour d'eux, avec eux, pour eux. On pense même le sourire de Dieu, si heureux de les bénir, en s'écriant peut-être comme au premier jour de la création, mais que c'est beau. Rire franc et magnifique d'Abraham, le croyant, qui à chaque fois qu'il repense à ce parcours, en se disant, en se rappelant toutes les étapes de « oui, où il fallait croire, où il a fallu tenir dans la foi », et en se disant maintenant qu'il est au bout de la réalisation, « mais j'ai tellement eu raison de croire, j'ai tellement eu raison de persévérer ». L'espérance ne trompe pas, quand on s'attend au Dieu vivant. Et le rire qu'évoque le mot d'Isaac dit cette joie qui dilate le cœur. En ce qui nous concerne, nous sommes encore dans notre vie à bien des égards, dans des temps où nous espérons toujours bien des choses par rapport au salut de Dieu, par rapport à l'œuvre de Dieu dans notre vie. L'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes sauvés en espérance. Nous vivons déjà la joie du salut, la réalité du pardon, la certitude de tout ce que Jésus a fait pour nous. Tout ça, c'est clair, nous le vivons. Mais il reste toute une dimension du salut que nous attendons encore et que Paul appelle la rédemption de notre corps, le moment où Dieu fera toute chose nouvelle pour l'éternité et où vraiment nous verrons de nos yeux ce en quoi nous avons cru sans le voir. Nous verrons de nos yeux le Seigneur Jésus vivant, triomphant, faisant toute chose nouvelle. Et ce jour-là, le Seigneur, nous dit Esaïe, essuiera toutes les larmes de tous les visages. Il n'y aura place que pour la joie, pour ce rire franc et joyeux de la profonde satisfaction d'avoir tenu le bon cap et d'en voir maintenant la richesse. Et ce jour-là, annonce le prophète Esaïe, on dira « Voici notre Dieu, c'est en lui que nous avons espéré et c'est lui qui nous a sauvés. C'est l'Éternel en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Cette parole, Esaïe la place au moment où tout sera accompli. C'est une parole que l'on pourra dire dans la plénitude, au moment où on verra l'accomplissement final. Cette joie de l'accomplissement, de l'aboutissement de la foi, c'est ce que vivent ici Abraham et Sarah avec la naissance d'Isaac. Il est bon pour nous d'écouter leur joie et il est bon pour nous de recevoir le message de cette voix, à savoir de cette joie, à savoir que persévérer dans la foi, attendre avec persévérance ce que nous espérons, c'est quelque chose qui aboutira au temps de Dieu. Nous le savons pour la fin de l'accomplissement de toutes choses, nous le savons aussi pour tout ce que nous attendons, tout ce que Dieu veut réaliser pour nous dans notre vie encore ici-bas. Le rire d'Abraham, de Sarah autour de la naissance de l'enfant, qui dit cette joie profonde qui remplit le cœur de ceux qui découvrent l'accomplissement des promesses de Dieu. Et c'est un encouragement pour nous, en voyant ces choses se passer, à tenir bon dans notre foi de chaque jour. Mais nous voyons dans notre texte, Sarah, dans sa joie, souligner un autre aspect du rire qui entoure l'événement de la naissance d'Isaac. Elle, il y a la joie, bien sûr, de la venue de l'enfant, mais elle dit, verset 6, « Dieu a fait de moi un sujet de rire, et quiconque l'apprendra rira à mon sujet. » Le rire ici semble un peu plus contrasté que la simple joie de l'accomplissement. Sarah redoute que ce qui fait sa joie la plus profonde conduise aussi certains à se moquer un peu d'elle, à rire un petit peu de cette histoire. Est-ce du pessimisme? C'est peut-être plutôt une perception assez lucide de la réalité. Sarah sait ce qui se joue parfois dans les regards. Elle en a souffert pendant si longtemps des regards. Et ce qui lui arrive maintenant est tellement hors norme qu'elle sait que cela suscitera aussi toutes sortes de regards, dont certains un peu moqueurs. Oh, quelle histoire! Attendre si longtemps un enfant à cet âge! Et c'est son Dieu qui aurait fait tout ça! Une belle réalité, et pourtant, un peu de moquerie, des sourires sur tout cela. Ce que l'on vit intensément, ce que nous vivons aussi intensément, comme notre expérience de foi, avec parfois de belles réponses réelles de Dieu, n'est pas toujours reçue de la même façon par ceux qui nous entourent. Même s'il y a des réalités aussi incontestables que la naissance d'Isaac. Nous le vivons parfois lorsque nous essayons de partager avec l'un ou l'autre telle expérience de Dieu qui répond à nos prières. Oui, c'est possible, mais tu crois vraiment que c'est Dieu? Il y a peut-être aussi toutes sortes de choses qui ont pu jouer. Nous le vivons aussi, me semble-t-il, lorsque nous parlons aujourd'hui de la résurrection de Jésus. On a beau dire que c'est du solide, que c'est attesté, on ne peut pas empêcher certains de sourire avec un peu de condescendance et de dire « Ouh là là, à l'heure de la science et d'Internet, on ne peut plus croire à ce genre d'histoire. C'est que des histoires et ils y croient. » Et pourtant, Sarah, dont on sourit, ne s'invente pas un film. Elle a donné un fils à Abraham dans sa vieillesse. Mieux vaudrait se questionner honnêtement pour ceux qui l'apprennent que de rire légèrement. Mais ainsi vont les choses parfois. Il nous appartient, quant à nous, de nous réjouir de ce que nous savons de l'action de Dieu, de ce que nous avons expérimenté, de ce qui a été attesté dans l'histoire, tous ces endroits où Dieu a accompli sa promesse, où il a agi conformément à ce qu'il a dit. Valorisons-le vraiment. C'est la bonne part qui ne nous sera pas enlevée. Tout comme aucun rire à propos de Sarah ne l'empêchera, elle, de se réjouir de l'enfant qu'elle a porté, qu'elle tient entre ses bras, envers et contre tous les obstacles, envers et contre toutes les improbabilités humaines. Ne laissons jamais les regards obliques des uns ou des autres ternir notre joie de ce que nous vivons bien réellement avec Dieu de par son action. Cultivons cette joie et la solidité de nos fondements. Affirmons ce que Dieu fait pour nous avec simplicité, honnêteté, sans en faire trop, mais sans passer non plus au silence ce que nous reconnaissons, ce que nous expérimentons comme vrai de la part de l'action de Dieu. Voilà pour ce que l'on peut dire autour de la naissance d'Isaac comme accomplissement de la promesse. Et on pourrait vouloir s'arrêter là. Mais notre récit se prolonge autour de la question du rire encore. Et notre récit prend un tour un peu surprenant, difficile à vivre, un peu déroutant certainement pour Abraham, et un peu déroutant à lire. En effet, que nous raconte le texte? Lorsqu'Isaac a 2 ou 3 ans, il est sevré, il devient un petit bonhomme qui marche, qui court, qui n'a plus besoin de sa mère en permanence et pour tout, et on fait une fête pour célébrer cette étape. Et c'est là qu'Ismaël, qui a 14 ans de plus qu'Abraham, Ismaël, le fils d'Agar, la servante d'Abraham, rit, nous dit le texte, et Sarah le voit. Et cela crée une crise profonde qui conduira à renvoyer Agar et Ismaël du clan d'Abraham et de Sarah. Que s'est-il passé? Tout dépend du sens que l'on donne au rire d'Ismaël. Ismaël rit en présence d'Isaac. S'agit-il d'un rire qui accompagne les jeux d'enfants? S'il s'agit de ce genre de rire tout naturel des enfants quand ils jouent ensemble, alors là, on assiste juste à une grosse crise de jalousie de Sarah pour un problème dans lequel elle s'était placée, mais qu'elle n'a jamais réussi à surmonter. C'est elle qui avait proposé quand même à Abraham qu'il puisse avoir un enfant par Agar. S'il s'agit d'un rire moins innocent d'Ismaël, un rire de moquerie par exemple, où le grand rabaisserait le petit, ou peut-être on tournerait en dérision les conditions de sa naissance, « Ouais, t'es le fils d'une vieille, toi !» Alors c'est une toute autre histoire. Cela peut devenir aussi une histoire de rivalité entre deux mères par enfant interposée, l'histoire d'une légitimité contre l'autre. Nous n'avons pas les détails, mais c'est probablement plutôt de ce second côté qu'il faut chercher. C'est ce que fait Paul, en tout cas, dans l'Épître aux Galates, lorsqu'il affirme qu'Ismaël persécutait Isaac, le fils de la promesse. C'est Galates 4, verset 29. On assiste alors à une sorte de rivalité qui s'affirme. On peut très bien imaginer des choses, sans parler de persécution aussi forte, mais se dire, voilà, qui est le vrai fils d'Abraham ? Le premier-né, là, Ismaël, ou qui est l'héritier ? Et sur cette question de savoir qui est le fils légitime, on voit que Sarah est intransigeante. Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Vous avez vu qu'il est question d'héritage, il est question de savoir qui est le fils légitime. Et il me semble que c'est probablement autour de cette question que se jouent les choses. Abraham, devant la demande d'exigence de Sarah, est très contrarié, profondément blessé dans son amour paternel. Il aime Ismaël, son fils. Mais Dieu lui parle et clarifie le choix. Il lui dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Fais donc ce que te demande Sarah et renvoie Agar et son enfant. Mais sache que je veillerai aussi sur Ismaël. Il y aura une promesse pour lui, un avenir pour lui. Mais ta descendance, c'est Isaac, c'est lui, l'enfant de la promesse. Que dire de tout cela ? Deux éclairages rapides. Le premier nous invite à veiller sur nos choix. Il faut le rappeler, à veiller sur nos choix. Abraham et Sarah avaient complètement minimisé la portée du choix qu'ils avaient fait ensemble d'utiliser Agar pour s'assurer une descendance. Ils avaient minimisé qu'Agar était une personne à part entière, qu'elle prendrait sa place dans leur histoire, qu'elle s'affirmerait et qu'elle avait une pleine légitimité à exister pleinement comme mère de son enfant. Alors c'est bien sûr ce qu'a révélé la suite, mais c'est le genre de choses que l'on peut anticiper d'une certaine façon si l'on réfléchit, si l'on consulte éventuellement d'autres avis, si l'on prie avant d'agir, si l'on réfléchit bien selon ce que l'on sait de Dieu. Et je suis quand même frappé de cette capacité que nous avons. Nous sommes tellement capables de fermer nos oreilles à ce genre de considération, de sagesse, lorsque nous avons un projet à cœur. On sait tellement bien se persuader que tout ira bien sans problème quand on veut tellement vraiment faire quelque chose, qu'on peut simplement se contenter de faire toujours toutes les hypothèses positives et rien que les hypothèses positives, juste parce que l'on veut aboutir à un projet. Ce récit nous dit, nous redit, que ce n'est pas comme cela que les choses se passent dans la réalité, que parfois les choses sont compliquées, que nos actes ont des conséquences, et nous sommes invités par là même à bien peser nos choix avant, honnêtement, devant Dieu, selon sa parole. Cette situation de crise ici nous rappelle ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'il aurait mieux valu faire avant. Mais le deuxième éclairage de cette situation concerne, me semble-t-il, la gestion de cette crise qui débouche sur le renvoi d'Agar et d'Ismaël. Est-ce que ce récit nous dit que voilà la façon dont il faut traiter les difficultés de famille? Il faut bien comprendre que dans cette affaire et dans la vie d'Abraham et de Sarah à ce moment-là, il y a une singularité, quelque chose de très particulier, lié au fait qu'Abraham est appelé à être le père des croyants. Abraham est appelé à être le père des croyants. Et la question de la descendance légitime d'Abraham prend de ce fait un relief tout particulier. Dieu a permis que Sarah soit stérile. Par cette stérilité de Sarah, Dieu a voulu montrer clairement que la descendance d'Abraham en tant que père des croyants se fonde non pas sur une simple légitimité humaine, mais qu'elle se fonde sur l'action de Dieu, sur la foi en sa promesse, sur l'intervention de Dieu lui-même. On n'hérite pas des promesses de Dieu et du salut simplement par la naissance naturelle. Il faut la foi en Dieu, comme Abraham lui-même a cru, et malgré toutes les épreuves de cette foi. Il faut la grâce de Dieu manifestée, comme dans la naissance d'Isaac, le fils de la promesse. Isaac, c'est l'enfant improbable. Il sait qu'il doit son existence à l'intervention de Dieu, là où l'homme ne peut plus rien faire. Et de même, nous savons que nous ne devons notre réconciliation avec Dieu qu'à l'intervention de Dieu en Jésus-Christ, là où nous ne pouvions rien faire pour être pardonnés, pour nous sauver nous-mêmes, pour être acceptables aux yeux de Dieu. C'est tout cela qui se joue dans cette histoire de la descendance d'Abraham. Comment est-on fils d'Abraham ? Simplement à cause des ressources humaines, des possibilités humaines, comme Ismaël l'avait été par tout ce qui avait été tenté avec Agar ? Ou est-ce que pour être de la descendance d'Abraham, il faut cette action de Dieu, ce miracle de Dieu, cette intervention de Dieu qui fait que l'on puisse vraiment être dans cet ordre-là ? Paul souligne cet enjeu dans l'épître aux Galates. Et Jésus lui aussi avait été très clair, avoir Abraham pour père ne se réduit pas à une question de filiation naturelle. Si vous étiez fils d'Abraham, disait Jésus même aux pharisiens, vous feriez les œuvres d'Abraham. Dieu voulait signifier ces choses au travers de cet événement. Que veut dire la vraie postérité d'Abraham ? Elle n'est pas selon les possibilités humaines. Elle n'est que par l'intervention, par la grâce de Dieu. Et c'est pour cela qu'Agar et Israël n'héritent pas avec Isaac. Et c'est pour cela qu'il y a cette séparation, en disant la vraie postérité d'Abraham, c'est par Isaac qu'elle vient, le fils de la promesse, le fruit de l'intervention de Dieu, en réponse aussi à la foi d'Abraham et de Sarah. Et ça, c'est la signification, si vous voulez, la plus globale. Mais il faut bien reconnaître qu'au plan humain, Dieu veille sur Ismaël, Dieu veille sur Agar, Dieu prend soin d'eux, Dieu va les protéger, les secourir, leur donner un avenir. Il faut, pour la manifestation de ce qu'est la vraie postérité d'Abraham, que la séparation soit faite. Mais si la séparation est faite, ça ne veut pas dire que Dieu délaisse complètement le sort d'Agar et d'Ismaël et les abandonne. Au contraire, il prend soin d'eux. Et on va dire que si l'enseignement théologique de cette séparation est la question de la vraie filiation, que veut dire être fils d'Abraham, l'enseignement éthique de cette histoire nous est donné par l'action de Dieu à l'égard d'Ismaël et d'Agar. Si l'on cherche l'enseignement éthique de cette histoire, c'est là qu'il faut la chercher. Le modèle éthique, il est dans le soin que Dieu prend d'Agar et d'Ismaël. Mais à cause de la signification particulière de l'histoire d'Abraham, père des croyants, Ismaël n'hérite pas avec Isaac. Rire et déchirement dans cette histoire. Les rires nous rappellent la joie qui résulte de l'accomplissement des promesses de Dieu et nous invite vraiment, dans notre vie de tous les jours, à persévérer dans la confiance en vue de ces joies que Dieu donne lorsqu'il manifeste ce qu'il est par l'accomplissement de ses promesses, par sa fidélité. Les rires. Le déchirement, lui, nous invite à la responsabilité de nos choix. Mais il pose aussi clairement la question de la filiation spirituelle. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Marchons donc pleinement dans cette voie et que le Seigneur éclaire notre visage de la joie de sa présence et de son action bienveillante. Amen.